RCF.
Le christianisme est porteur d'une longue histoire, de traditions très différentes, mais il se déploie à partir d'un noyau spirituel que quelques grands théologiens et philosophes font vivre, nourrissant la prière et la méditation des femmes et des hommes d'aujourd'hui. Maître Eckhart est une de ces figures exceptionnelles. Connu comme étant le père de la mystique rhénane, théologien et prédicateur, il est au début du XIVe siècle le premier dominicain à prêcher en langue vulgaire et à s'adresser à un large public de religieux comme de laïcs. Ses sermons nous invitent à nous mettre en route sur le chemin de l'âme vers Dieu pour dire et vivre la plus intense et la plus simple expérience de ce qui est au-delà de l'exprimable, le Verbe de Dieu. Maître Eckhart, révéler la lumière cachée, dernier sermon allemand et autres écrits rhénans, est un livre qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Éric Mangin, traducteur et spécialiste de Maître Eckhart, est notre invité aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour Sarah Brunel.
Éric Mangin, vous êtes philosophe et théologien, vous avez traduit et présenté les œuvres de Maître Eckhart. Vous êtes l'auteur de plusieurs essais sur le maître rhénan, en particulier un très beau livre, La nuit de l'âme, l'intellect et ses actes chez Maître Eckhart en 2017. Aujourd'hui, vous traduisez et présentez les derniers sermons du maître rhénan, de la nuit à la lumière, si je retiens ce cheminement. Est-ce votre propre rencontre et votre propre voix, plus personnellement, disons, avec Maître Eckhart?
C'est une lumière cachée, hein, vous noterez bien. Oui. Donc, entre la nuit et la lumière cachée, on n'est pas très loin. Oui, c'est vrai, c'est peut-être pas un des points qui m'est venu en premier quand j'ai commencé à lire Maître Eckhart, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, cette idée d'une connaissance qui est d'autant plus connaissante qu'elle s'attache à quelque chose d'insaisissable. Voilà. Il y a des choses qu'on peut connaître assez facilement et dans la vie de tous les jours pour des questions pratiques, une table, une chaise, voilà. Il y a des choses plus compliquées, plus insaisissables, comme la question de Dieu, comme la question de la liberté humaine. Et au fond, le travail de la pensée, c'est ce que montre Maître Eckhart, s'attache surtout sur des objets qui sont toujours insaisissables. D'où la nuit de l'âme, qui consiste à montrer qu'on pense vraiment très bien face à quelque chose qui est difficile à saisir. Et la lumière cachée, alors... La lumière cachée, c'est une manière de dire que Dieu est toujours insaisissable, mais on n'a rien d'autre que la création qui est autour de nous pour pouvoir en repérer une étincelle.
Alors, Maître Eckhart, présentons-le un peu rapidement pour commencer. Maître Eckhart, donc nous sommes au début du XIVe siècle, il est dominicain, alors il a une formation universitaire très très solide, et puis oui. Il a cette vocation de prédicateur.
Oui, alors il est né en 1260 et il est mort en 1328. On sait une date précise, en 1294, qu'il était bachelier sentenciaire à la faculté de théologie de l'Université de Paris. Donc ça nous donne un point de repère pour savoir quand il est rentré chez les dominicains. Et ensuite, il a une activité toujours un peu double de pasteur, en particulier qui s'occupe de l'accompagnement spirituel des frères, des religieuses dans la vallée du Rhin, à Erfurt, Strasbourg et à la fin de sa vie à Cologne, puisqu'il dirige les études des dominicains à Cologne. Et puis une activité universitaire, il a enseigné à deux reprises à l'Université de Paris, ce qui est très rare au Moyen-Âge. Seul Thomas d'Aquin lui-même a enseigné à deux reprises. Donc il a à la fois, si vous voulez, une formation solide de théologien et philosophe et une formation pastorale assez originale puisqu'il est un des premiers à s'adresser dans la langue vernaculaire le vieil allemand qui a été traduit voilà, intégralement maintenant.
Alors, il y a un moment aussi particulier dans la vie de Maître Eckhart qui est peu connu, c'est, vous l'évoquez dans la présentation, le procès d'inquisition qui a eu lieu en 1327. Qu'est-ce qui s'est passé et quel a été l'impact sur Maître Eckhart?
C'est un très gros dossier, on a combien de temps devant nous?
Rapidement.
Non, alors, pour se représenter un peu l'époque de Maître Eckhart, c'est une époque en pleine expansion. Par exemple, il va aussi avoir des charges très concrètes, hein, en Allemagne, où il y a des couvents de frères et de religieuses qui s'ouvrent un peu partout. Donc, négociations avec les villes pour créer de nouveaux monastères, négociations avec l'institution ecclésiastique. Donc, un grand moment d'expansion et de prédication en langue vernaculaire à un peuple beaucoup plus large que de simples religieux et religieuses. Alors, si on lit dans le procès, pas entre les lignes, parce que c'est vraiment écrit noir sur blanc, on dit en plus, il a enseigné, il a mis par écrit son enseignement aux vulgaires crédules. C'est-à-dire qu'il commence à diffuser une œuvre écrite et pérenne à un public beaucoup plus large. Donc c'est ce qui fait qu'on le lit aujourd'hui, beaucoup plus largement, et ce qui à l'époque a commencé à poser quand même quelques questions. Voilà.
Vous écrivez ceci, effectivement, on lui reproche ce qu'on admire de lui aujourd'hui. C'est-à-dire,
c'est vrai.
C'est-à-dire,
ouais.
qu'est-ce qu'on admire donc aujourd'hui dans Maître Eckhart ?
Eh bien, il écrit en latin et en vieil allemand. Le latin, c'est la langue savante, conceptuelle, traditionnelle, qu'il connaît parfaitement bien puisqu'il a enseigné et commenté l'écriture en latin. Et il va transcrire dans la langue allemande tous ces concepts savants avec une grande créativité verbale. Voilà. Donc du coup, son œuvre allemande, ça va être un répertoire pour toute une tradition spirituelle et théologique, d'abord dans la vallée du Rhin et puis ensuite dans différents foyers qui vont s'étendre dans toute l'Europe. C'est aussi une période de grande communication dans la spiritualité. Il y a aussi des Béguin, par exemple, dans les Flandres ou ailleurs, qui écrivent en vieux français ou en dans le dialecte de Brabant, par exemple, comme Advige d'Anvers. Et tout ce monde-là communique. Vous voyez, par exemple, quand Eckhart, alors ça c'est un point très précis, quand Eckhart est à Strasbourg, il a la responsabilité d'accompagner les religieuses, mais aussi les Béguin de la ville de Strasbourg. Et on voit qu'il vient pas du tout avec un discours officiel en disant voilà ce qu'il faut dire et voilà ce qu'il faut penser. Il y a un véritable échange puisqu'on retrouve dans ces textes allemands des propos qu'on retrouve par exemple chez Advige d'Anvers. L'histoire d'un fond sans fond dans l'âme, c'est quelque chose qu'on retrouve chez elle pour la première fois. Ce qui veut dire qu'il y a une communication à ce moment-là qui est à la fois extraordinairement fructueuse, mais qui interroge aussi.
Maître Eckhart a écrit de nombreux sermons, un grand nombre de sermons. Vous traduisez les sermons allemands ou derniers sermons. À quoi cela correspond-il ? Que peut-on dire pour présenter un peu simplement ce qu'est un sermon pour Maître Eckhart ? Voilà, comment c'est construit ? Quelle est sa finalité ?
Alors. En fait, il y a deux choses dans votre, il y a deux éléments dans ma réponse. Un sermon, c'est bien évidemment un acte qui a lieu pendant l'Eucharistie, mais c'est également au Moyen-Âge un lieu d'enseignement très important. Dans l'enseignement universitaire, par exemple, ça se passait de la manière suivante. Le matin, on commençait par la lecture d'un texte. Ça pouvait être en théologie, évidemment, l'écriture. En philosophie, c'était Aristote. Voilà. Ensuite, au cours de la journée, en début d'après-midi, les étudiants se mettaient de part et d'autre et on discutait ce texte-là. Par exemple, sur un point qui est « peut-on donner un nom à Dieu ?» Et certains se répartissaient en disant « non, non, absolument pas » et d'autres disaient « absolument ». Et en fin de journée, le maître réunissait tous ces éléments-là et donnait un résumé de ce qu'il fallait retenir de la journée. C'est ce qui sont devenus les sommes théologiques. Thomas d'Aquin, c'est jamais qu'un, ce qui nous apparaît comme une grande encyclopédie, ça n'est jamais qu'un résumé, mais également les sermons. Certains sermons peuvent être un peu le résumé de la journée. C'est pourquoi dans certains sermons, d'ailleurs, de Maître Eckhart, on a, dans la matière même du sermon, beaucoup d'éléments de citation d'Aristote, d'Augustin, de Thomas d'Aquin. Ça peut paraître un petit peu érudit, mais en fait, il faut comprendre que ça prenait sa place dans l'enseignement et qu'on avait le temps, à ce moment-là, d'écouter les sermons et qu'on se passionnait. C'était un lieu d'enseignement.
Alors, le sermon, à un premier temps, hein, si je récapitule ce que vous avez exprimé, la lecture d'un verset dans l'écriture, d'un psaume par exemple, la mise en dialogue, enfin en résonance avec des sources diverses, philosophiques, patristiques, et puis ensuite cette sorte de synthèse qu'opère Maître Eckhart. Ouais. Alors il reste effectivement à aborder la question peut-être du but, de la finalité que vous vouliez aborder maintenant.
Ce que je voulais dire à propos des sermons, c'était cette idée que ces derniers sermons là qui viennent d'être traduits, ce ne sont pas les derniers d'un point de vue chronologique. On a peu d'éléments pour pouvoir dire à quelle date précise les sermons ont été écrits. En fait, ma traduction, comme celle de Jeanne Hensley-Eustache, sont des traductions qui se réfèrent sur l'édition critique allemande. Édition critique allemande qui a eu une manière de faire très particulière. Ils ont commencé la numérotation des sermons à partir des textes qui avaient été accusés dans le procès de Maître Eckhart. Donc ce sont en fait les textes avec les formulations les plus audacieuses. Et progressivement, les sermons qui ont été authentifiés sont des sermons qui trouvent des résonances avec d'autres textes Descartes, avec toute son œuvre que maintenant on connaît bien. On connaît suffisamment son œuvre pour dire bah ça il l'a écrit ou ça c'est très peu probable. Donc les derniers sermons allemands Descartes, si vous voulez, ce sont des textes vraiment très classiques. Vous voyez, dans les formulations sont vraiment très classiques. Il y a un sermon, par exemple, sur les obstacles qu'il faut supprimer dans l'âme humaine pour pouvoir atteindre la connaissance de Dieu. C'est vraiment un sermon que on voit très bien le maître des novices à Erfurt s'adresser à ses... Voilà, il n'y a aucune formulation. Donc en fait, on est passé des textes les plus délicats dans la lecture, peut-être aussi intéressants d'un point de vue poétique, avec des notions de néant de l'âme, des choses comme ça, à des textes comme ceux-là qui sont au fond des textes beaucoup plus traditionnel. Ça n'en demeure pas moins des textes très intéressants. Voilà.
Alors, dans ces sermons, on retrouve quelques thématiques fondamentales dans l'œuvre de Maître Eckhart. On peut, par exemple, commencer par cette dimension, cette compréhension très, très ouverte et en même temps très exigeante de l'intellect, de l'intelligence, de cette puissance qui donne à l'homme la capacité de s'élever vers la connaissance et donc vers Dieu. Comment cela prend-il forme? Comment cela a-t-il ici son importance chez Maître Eckhart? Comment cela va-t-il être formulé? Voilà.
Alors justement, dans les débats d'école, et le débat à l'époque, la question disputée, c'est tout ce qui donne à la théologie son caractère scientifique. Il y a deux grands courants qui s'opposent, les dominicains et les franciscains. Pour les franciscains, c'est l'amour qui est la voie royale vers Dieu. Pour les dominicains, c'est l'intellect et la connaissance de Dieu qui est la voie royale. En réalité, ils se disputent pas tant que ça, parce que Eckhart, bien qu'il accorde une certaine importance à l'intellect, reconnaît que l'amour est tout à fait indispensable. Il prend la métaphore de Pierre et Jean qui courent au tombeau, et tous les deux représentent une des deux facultés. Et finalement, c'est l'intellect qui va plus loin, parce que pour lui, la connaissance, c'est ce qui permet de saisir Dieu dans sa nudité. Voilà. L'amour, c'est ce qui nous porte vers Dieu, mais encore sous un attribut qui est celui de la bonté. Il y a vraiment chez Eckhart, et c'est ça qui est peut-être plus original, une exigence de radicalité. Il faut pouvoir connaître Dieu au-delà de Dieu, au-delà de tous les noms qu'on peut lui donner, dans sa nudité. Ni pour ceci, ni pour cela, mais sans pourquoi. C'est très aride, non, c'est pas du tout aride, c'est même plutôt joyeux et plaisant, mais il y a vraiment une exigence d'aller au-delà de toutes les représentations qu'on peut faire sur Dieu. La plus haute manière de le connaître, c'est de le connaître dans son insaisissabilité.
Alors cet aspect-là est très profond dans cette œuvre Descartes et nous touche particulièrement aujourd'hui. On peut peut-être le mettre aussi en relation avec une thématique de Maître Eckhart que vous mettez aussi en évidence dans ce mouvement de l'âme qui se tourne vers Dieu et qui laisse Dieu agir en l'homme au travers de cette attitude ou de cette recherche du détachement. En quel sens Maître Eckhart nous donne-t-il à penser ce détachement?
C'est un des grands maîtres en la question. Alors là aussi, il me faudrait plusieurs séances pour en parler. Il n'a pas inventé le détachement. Le détachement, c'est une attitude spirituelle qu'on connaît bien avant lui. En revanche, il a inventé le terme allemand et toute une terminologie qui va avec. L'originalité pour lui, c'est un détachement intérieur à l'égard des images et représentations. Si vous voulez, le détachement extérieur, matériel, pour le religieux dominicain qu'il était, voilà, il pouvait vivre détaché de manière matérielle. Ce qui est plus difficile et plus redoutable, quand on est retranché dans sa cellule et dans sa solitude, c'est toutes les images et représentations qui nous assaillent en permanence, avec la plus redoutable, qui est d'ailleurs pas tellement celle de Dieu, ce qui est la nôtre. On essaie toujours de projeter sur Dieu des représentations qui sont les nôtres, dont il faut tout abandonner, y compris abandonner Dieu, et le plus difficile quand on a tout abandonné, c'est de s'abandonner soi-même. Voilà. Une entreprise qui est toujours à refaire, et de ce point de vue-là, c'est vraiment très intéressant et très tonique. Ce qui est original dans un des derniers sermons traités, c'est qu'on pourrait se faire des cartes une représentation un peu intellectualiste du détachement. Il est très intéressant aujourd'hui de le lire dans différents domaines de la psychanalyse, autre que voilà. Mais pourtant, il y a une vision très joyeuse, très stimulante. Il nous parle beaucoup du plaisir d'exister et du goût de vivre à partir du détachement. Donc, c'est pas du tout une démarche ascétique. C'est une certaine forme d'indépendance retrouvée, de manière à retrouver la saveur d'un monde qui a retrouvé la lumière de Dieu.
Dialogue, Sarah Brunel.
Éric Mangin, nous évoquons avec vous les derniers sermons allemands de Maître Eckhart. Révéler la lumière cachée, c'est le titre de ce livre que vous venez de traduire et de présenter. J'aimerais que nous abordions un peu plus précisément cette thématique de la lumière, cette présence de la lumière dans les textes de Maître Eckhart. La lumière, qu'est-ce que c'est pour Maître Eckhart? Qu'est-ce que cela désigne?
Alors, c'est d'abord un thème biblique. D'abord un thème biblique qu'on retrouve dans beaucoup de textes qu'il commente. Dieu est une lumière cachée. Et c'est d'ailleurs parce que cette lumière est cachée, toujours insaisissable, qu'elle éveille en nous un désir de connaître. C'est-à-dire, le Dieu caché, c'est pas Dieu ne se cache pas du tout pour se dérober à l'homme. Ce Dieu caché, cette lumière cachée, c'est pour éveiller en nous un désir dans la recherche. En même temps, c'est le Christ qui est la lumière révélée aux hommes, évidemment. Et puis, là où il va plus loin dans tous ces sermons-là, c'est qu'il ose dire que d'une certaine manière, la création, le livre de la nature, en quelque sorte, la création et l'homme en particulier, révèle cette lumière cachée. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant au terme de ces traductions de sermons allemands, c'est qu'on a une belle vision de l'œuvre Descartes, complète, et on voit bien l'art de la nuance, de l'art de l'excès. C'est l'excès qui consiste à dire « Dieu, il est toujours inconnaissable au-delà de nos représentations », et l'art de la nuance et de la proximité, mais nous n'avons rien de mieux que la création autour de nous, et l'homme en particulier, pour porter la trace du divin. Donc ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est toujours ce rapport entre distance et proximité. On est toujours à distance de ce que l'on cherche et de ce que l'on veut connaître, et pourtant pas si loin, en quelque sorte.
Alors, j'ai repris une phrase, une méditation autour du sermon 19. « Ainsi, toutes les créatures sont une lumière, car elles sont compréhensibles dans la lumière. Toute chose s'écoule hors de lui comme une lumière qui révèle la lumière cachée. » Alors, est-ce que cela signifie que cette lumière est imperceptible? Ou bien, je dirais au sens, à notre sensibilité dans ce monde, ou bien y a-t-il quelque chose d'imperceptible, mais qui se donne autrement, enfin, par d'autres moyens?
Eh bien, je ne sais pas, parce que à cette question-là, je ne sais pas comment répondre, en fait. Je crois que la plus haute manière de saisir la lumière, c'est de la saisir dans ce voile d'insaisissabilité. C'est-à-dire, au fond, peut-être, je réfléchis, les commencements dans la foi, qui s'adressaient aussi à des novices, cette espèce d'illumination, c'est ce qui est extraordinaire. Tout paraît très évident et tout très clair dans la lumière de Dieu. Tout devient intelligible. Et c'est vrai au Moyen-Âge, en tout cas. La question de Dieu est vraiment la clé d'intelligibilité du monde et de l'homme. Mais en même temps, ce qui est peut-être original chez Eckhart et ce qui peut peut-être parler pour aujourd'hui, c'est de montrer qu'il y a un plus haut niveau de connaissance, c'est de saisir cette lumière en tant qu'elle sera toujours au-delà de ce que l'on croit connaître. C'est ça la lumière cachée et c'est peut-être ça l'exigence plus haute à laquelle il nous appelle.
Et de cela, pouvons-nous en faire l'expérience ? Ou pour le dire autrement, en quoi consiste alors l'expérience de Dieu pour Maître Eckhart ?
Sans doute une forme d'humilité. Je ne crois pas trop me tromper en disant ça, parce que ça inonde, en tout cas, pour prendre une autre métaphore, ces sermons. Sans doute l'humilité, c'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir l'impression d'être totalement connaissant, d'être totalement, lumineux par rapport à la question de Dieu. Il y a une part d'humilité qui permet peut-être, justement, de repérer les choses derrière, comme derrière un voile, comme dans un secret, ce Dieu caché. Donc sans aucun doute, l'humilité est ce qui permet d'accéder à un plus haut niveau de connaissance.
Vous parlez également à propos de ces sermons et de la théologie de Maître Eckhart, d'une théologie, si j'ai bien compris, qu'on ne va pas faire entrer dans un système, et tant mieux. Vous parlez d'une théologie de la grâce. Alors, quel est le sens de la grâce ? Est-ce que ça signifie vivre pleinement un amour qui nous est donné, qui nous dépasse et qui nous permet de nous accomplir dans des temps et des lieux différents, puisque nous vivons aujourd'hui un autre monde, une autre réalité, mais c'est peut-être comme ça qu'il nous rejoint.
Tout à fait, oui. Il nous rejoint sans doute si on le lit aussi avec une certaine humilité, c'est-à-dire en ne cherchant pas chez lui des réponses toutes faites à nos questions d'aujourd'hui. Et pourtant, nous savons très bien en le lisant qu'il n'y a pas d'autre manière de donner notre propre réponse à notre monde qu'à travers la lecture des classiques. C'est ce qu'il fait lui-même d'ailleurs dans son œuvre en relisant les auteurs qui pour lui sont des classiques, comme par exemple Aristote. Mais du coup, j'ai perdu votre question.
Oui, la question, c'était la question de la grâce, et donc quel sens on peut donner à cette grâce.
Oui.
À partir des cartes.
Voilà. Ouais. Je pense que pour lui, c'est la dynamique de l'esprit. Alors, vous parliez de l'amour, sans aucun doute. Pour lui, la connaissance et l'intellect, que la grâce, c'est précisément de toujours pouvoir remettre en cause nos représentations. Ce qui est très difficile, parce qu'en fait, il nous représente une vie intellectuelle à la fois très stimulante et très dégroutante. C'est-à-dire qu'au fond, il ne faut jamais s'arrêter dans la connaissance, dans l'illusion de croire qu'on peut connaître, qu'on connaît et qu'on saisit les choses. Au fond, le véritable spirituel, le véritable théologien, c'est celui qui a cette grâce de toujours poursuivre le chemin. De toujours poursuivre le chemin avec un certain désir, parce que ce qui est recherché, on le trouve pas toujours ou pas comme on voudrait, et donc il faut aller plus loin. Et peut-être que l'expérience de la grâce, c'est ça. Alors, c'est évidemment très lié à son expérience du Christ. Pour lui, le Christ, c'est pas d'abord un modèle qu'il faudrait absolument suivre et imiter, c'est plutôt une image, elle est l'image du Dieu invisible, en ce sens que lui-même se dérobe à toutes les images et représentations qu'on voudrait faire de lui. Chaque fois qu'on dit « tu es ceci, tu es cela », il se dérobe en disant « pas tout à fait, pas exactement ». Et ça l'intéresse vraiment. C'est en ce sens qu'il est l'image du Dieu invisible.
Alors, pour ceux qui ou celles qui ne connaissent pas Maître Eckhart, il me semble qu'il y a une chose importante à dire en lisant cette dernière traduction là que vous proposez de ces sermons. On reprend ce modèle qu'on évoquait tout à l'heure, c'est cette citation d'un verset, d'un psaume, d'une ou deux phrases, ensuite cette confrontation à d'autres sources, et puis on va dire la synthèse, le commentaire. Contrairement à peut-être ce qu'on dit, on peut entrer assez facilement, je trouve, dans ces textes. Ils ne sont pas extraordinairement opaques ou hermétiques, pas du tout. Et vous prenez l'image, par exemple, de la cathédrale. On peut dire qu'on peut entrer dans Maître Eckhart aussi naturellement, finalement, qu'on peut entrer, si bien sûr on est porté par la foi et par cette recherche de cette expérience de connaissance de Dieu. On peut rentrer assez facilement. Vous parlez de cette œuvre comme un édifice en construction qui permet de se rythmer, de s'adapter à notre vie intérieure.
Mmh. Exactement. Alors, dans les sermons qui ont été traduits, certains ne sont pas de Maître Eckhart. Le tout dernier, qui est magnifique d'ailleurs, c'est une superbe synthèse de théologie qu'il n'aurait pas écrit, sans aucun doute, parce que trop systématique pour lui, qui n'est pas du tout systématique. Ce qui l'intéresse, c'est la pensée en construction, comme la cathédrale de Strasbourg qu'il avait sous les yeux en construction. Ça, c'est vraiment très intéressant. Il y a des personnes qui adorent qui ont un esprit systématique, qui adorent que tout soit dans des cases très précises. C'est pas son cas, lui. Ce qu'il aime, c'est voir la pensée en mouvement. C'est l'expérience de Dieu qu'il retrace. Et c'est cette construction de la pensée qui l'intéresse. Ça le fascine beaucoup. Et de ce point de vue-là, alors, j'aime pas dire que les auteurs nous rejoignent ou ne rejoignent pas, mais de ce point de vue-là, c'est très stimulant parce qu'il s'adresse vraiment à tout le monde. C'est vraiment, il s'adresse à toute personne en recherche d'une pensée en construction.
Vers quelque chose comme une pensée aussi ou une formulation la plus épurée possible de cette expérience.
Tout à fait. Hein, oui. Tout à fait. Et merci de cette remarque parce que je trouve que ce qui est le plus intéressant chez lui, ce qui fait qu'il est à la fois apprécié d'un public chrétien comme un public beaucoup plus large, c'est cette capacité à avoir épuré et les idées et le langage. Ça, je trouve ça extraordinaire. Il parvient à des formulations assez étonnantes, par exemple sur la question du néant, des choses très poétiques, très belles. Quand il dit « l'âme se perd dans l'océan de la déité », c'est très joli. Il rejoint d'autres traditions, des traditions très lointaines, comme le Tao en Chine, qu'il n'a pas du tout connu, pas du tout fréquenté. Voilà. Et ça m'a toujours beaucoup étonné de voir ces passerelles entre les différentes cultures, pas du tout par le dialogue, même si le dialogue est très important aujourd'hui, mais parce qu'il est capable d'affiner sa tradition, la tradition chrétienne, de l'épurer, de la nettoyer de tout ce qui est un peu artificiel, et à un moment donné, le langage parvient à quelque chose de profondément pur et de profondément simple, qui rejoint quelque chose d'universel. Ça m'étonne toujours de voir dans les traditions comment chacun, à partir de sa tradition, est capable de toucher quelque chose d'universel.
Éric Mangin, comment la lecture et le travail patient, exigeant, que vous avez effectué sur Maître Eckhart, vous accompagne-t-il, vous, plus personnellement, dans la prière ou dans la méditation ?
Alors justement, ce travail ce travail de la langue est vraiment très intéressant. Ce travail sur le langage qui est toujours à nettoyer, à épurer, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Il a une œuvre très littéraire et très belle. Ça, c'est très agréable à lire. Même si quelquefois, ça peut paraître un peu technique et théologique, il y a des formulations vraiment très très belles. Et ça, c'est savoureux. Voilà, la saveur d'un texte, ça n'a pas de prix. C'est pas simplement exigeant sur le point de vue intellectuel, ça peut être aussi très savoureux dans la langue. Et j'aime bien les choses qui sont bien écrites, à vrai dire.
Merci infiniment, Éric Mangin. Je recommande vivement à nos lecteurs la lecture du recueil des derniers sermons de Maître Eckhart, « Révéler la lumière cachée » avec d'autres écrits rénants, paru aux éditions du Seuil, donc en 2024. Merci également à nos amis de RCF Montpellier, à Christophe Morag aussi, à la réalisation technique.